Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur le drame syrien. Au moment où la Ghouta orientale, territoire rebelle, est intensément pilonnée par les aviations syriennes et russes, 600 civils ont péri en l'espace de 10 jours, quand les survivants, eux, doivent supporter les conséquences d'un véritable blocus alimentaire et le traumatisme de bombardements au chlore. Oui, tous les médecins et infirmières qui ont soigné les victimes sont formels, une fois de plus, le régime de Damas a employé des armes chimiques. Affaires sensibles vous propose donc de revenir sur ce que Barack Obama avait appelé la ligne rouge, ce plafond de verre qu'il ne tolérerait pas en Syrie, autrement dit l'utilisation d'armes chimiques. On connaît la suite. Ce récit sur la ligne rouge avait été diffusé le 8 mars dernier. Depuis, le martyr des civils syriens ne cesse pas la preuve. Notre invitée aujourd'hui, Alaa Kodmani, journaliste à Libération, pour lequel elle couvre le conflit syrien. Libération, notre journal partenaire, une fois par mois. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Printemps 2013, Ghouta, banlieue de Damas. En arabe, Ghouta signifie « oasis ». Il fut un temps où cette ville était le croissant fertile de la capitale syrienne. Désormais, c'est un épicentre de la guerre en Syrie entre les fidèles du régime et ses opposants. Ici, dans un dédale d'immeubles en ruine, civils et combattants vivent reclus, sans eau ni électricité, que le régime a préféré couper. Assiégés, ils sont sur la ligne de front, la plus proche en tout cas du pouvoir et de Bachar al-Assad. Voilà 2 ans que la révolte a éclaté en Syrie. 2 ans au cours desquels les manifestants sont devenus révolutionnaires, puis soldats, et qu'ils espèrent que les despotes comme en Tunisie ou en Égypte vont quitter le pouvoir et laisser place au changement. En Syrie, tout a commencé au printemps 2011. Pourtant interdit en raison d'un état d'urgence devenu permanent, les premiers appels à manifester sont postés en mars sur Facebook. Dès les premiers rassemblements, la mobilisation entraîne la répression. À Dera, au sud du pays, près de la frontière jordanienne, des adolescents sont arrêtés pour avoir inscrit sur des murs un graffiti où l'on pouvait lire « Le peuple veut la chute du régime ». Le 23 mars 2011, une manifestation qui réclamait la libération de ses enfants s'est finie par la mort d'une dizaine de manifestants. 10 jours plus tard, les gamins sont libérés après avoir été torturés. Malgré les coups, malgré les morts, le mouvement s'amplifie et s'organise. En juillet 2011, une armée syrienne libre voit le jour. L'opposition politique prend également un visage et un nom avec la création du Conseil national syrien à Istanbul. Ce même mois, les dirigeants anglais, américains, allemands et français demandent le départ de Bachar al-Assad. Moscou, suivi par la Chine, refuse en revanche toute résolution de l'ONU sur la situation en Syrie. Pour l'instant, les diplomates restent à distance du chaos syrien. Durant l'année 2012, un an après le début du soulèvement, la crise se militarise avec un nombre croissant de victimes. La répression du régime est de plus en plus féroce, comme dans la ville de Houla, au nord de Homs, où le 25 mai 2012, plus de 100 personnes, hommes, femmes et enfants, sont assassinées par les troupes et milices du gouvernement syrien. Un mois après ce drame, l'armée syrienne libre lance une vaste offensive au cœur de Damas et d'Alep. La guerre urbaine débute. Alors que les combats font rage, le 23 juillet 2012, le gouvernement syrien, par la voix de Djihad Makdisi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, menace.
Tous les stocks d'armes non conventionnelles ou d'armes chimiques ne seront jamais, jamais utilisés contre les civils et les citoyens syriens, quelle que soit l'évolution de la crise. Tous ces stocks d'armes sont sous la surveillance étroite des forces armées syriennes. Ces armes ne seront utilisées que si la République arabe de Syrie fait face à une agression extérieure. Ce sont les généraux qui décideront quand et comment les utiliser.
Après des semaines de rumeurs, le régime syrien confirme qu'il possède un stock d'armes chimiques. Un mois plus tard, le président américain répond à cette menace.
Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle des armes chimiques ou biologiques tomberaient dans les mains de mauvaises personnes. Nous avons fait savoir de façon claire au régime d'Assad et à d'autres forces sur le terrain qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous. Si nous commencions à voir des armes chimiques déplacées ou utilisées, cela changerait mon calcul, cela changerait l'équation.
Thank you, everybody.
Barack Obama prend acte devant la communauté internationale et auprès du peuple syrien qu'une ligne rouge est désormais tracée. Toute utilisation d'armes chimiques aura des conséquences. Mais jusqu'où ira le président américain? Sera-t-il suivi? Quelle sera la réaction de la communauté internationale en cas de crime à l'arme chimique? Avril 2013, quartier Jobar à Damas. La nuit, sur les toits, on peut voir deux mondes qui se font face. À l'ouest de la ville, du palais présidentiel jusqu'à la place des Abbassides, les quartiers sont illuminés. Dans la périphérie, sur la route A, c'est l'obscurité qui règne. En ce printemps 2013, Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der Stock sont les premiers journalistes à rejoindre Jobar. Partis quelques semaines plus tôt de France pour le journal Le Monde, ils arrivent pour deux mois d'enquête auprès des opposants à Bachar al-Assad. Aux alentours de la capitale, les positions de chaque camp se sont fixées. Les forces gouvernementales tiennent le mont Kassioun qui surplombe la ville, mais aussi les principaux axes routiers et l'arrière des plaines de la Routa que les rebelles, eux, contrôlent. Jobar est la ligne de front la plus avancée aux portes du régime. Pour l'atteindre, on doit traverser des immeubles, suivre des flèches, enjamber mur après mur des dizaines d'appartements. De ces maisons percées, la vie s'est peu à peu échappée. Seule la guerre et la mort y ont trouvé domicile. Au sein d'une des katibas de Jobar, les deux journalistes français découvrent le quotidien de ces combattants, jeunes étudiants ou anciens soldats de l'armée. Un quotidien qui charrie son cortège de blessés que l'on transporte à la va-vite à l'aide d'un linge ou d'un matelas abandonné. Et puis un jour, Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der Stock rencontrent l'ennemi invisible.
Cette révolution est une révolte orpheline. Personne ne nous a aidés. On veut que d'autres pays nous soutiennent. Regarde, là où on est assis, et eux, ils sont en train de nous bombarder. C'est rien, mais apporte-nous des masques. Ce salaud nous balance des armes chimiques. On a entendu une explosion et on a senti l'odeur. Tout de suite, on a eu du mal à respirer. On voyait flou. Et on avait des maux de tête. Mais Dieu merci, on se sent mieux maintenant.
L'utilisation d'armes chimiques n'était pour l'heure qu'une rumeur que l'on tenait des réfugiés et des combattants. En septembre 2012, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel rapporte que des essais auraient été effectués à l'est d'Alep en août. En décembre 2012, nouvelle alerte. À Homs, à la veille de Noël, dans le quartier d'Al-Bayada, des armes chimiques auraient été utilisées. Ces gaz auraient provoqué la mort de plusieurs personnes. Alors, une mission d'enquête de l'ONU demandée par la France, le Royaume-Uni et les USA est ouverte le 21 mars 2013. Mission dont Bachar al-Assad refuse la tenue et l'accueil dans son pays. Un mois après l'ouverture de cette enquête, à Jobar, Jean-Philippe Rémy et Laurent Van der Stock découvrent cette arme sans odeur qui touche l'intérieur des corps sans laisser de blessures apparentes. Au sein des katibas, côté des armes et des munitions, les rebelles de la banlieue de Damas doivent se munir de masques à gaz afin d'éviter les effets des explosifs chimiques du gouvernement. Les civils, eux, ne peuvent se protéger. C'est dans les couloirs des hôpitaux de fortune que d'autres voix témoignent du quotidien des attaques au gaz. C'est le cas du docteur Hassan, du centre médical de Kafr Batna, que les deux journalistes du Monde ont rencontré.
Environ 20 patients sont arrivés de Jobar, civils et combattants. Ils se plaignaient d'avoir du mal à respirer. Ils avaient des rougeurs, les yeux rouges et les pupilles contractées. Ils souffraient de nausées, de vomissements et certains toussaient du sang. J'ai traité ces patients Et une heure après, j'ai ressenti les mêmes symptômes. J'ai été traité à l'atropine, à l'hydrocortisone. On m'a mis un masque à oxygène. Et après une heure de ce traitement, je me suis senti mieux.
Le 27 mai 2012, après leur retour, Le Monde publie l'enquête des deux journalistes, témoignages, photos et vidéos à l'appui. Dans leur bagage, ils ont aussi rapporté 21 échantillons de vêtements, de cheveux, de sang et d'urine. Prélevés dans un centre médical dans la région de Damas, à Kafr Batna, ils sont transmis le 18 mai au Centre d'études français du Boucher, seul laboratoire en France équipé et certifié dans le domaine des armes chimiques. Le 4 juin, c'est par un communiqué du ministère des Affaires étrangères que l'on apprend le résultat de ces analyses. Le ministère déclare « La France a désormais la certitude que le gaz sarin a été utilisé en Syrie à plusieurs reprises et de façon localisée. » Mais quelle sera la réaction de la communauté internationale ? Alors que les preuves s'accumulent, Bachar al-Assad accepte d'inviter deux hauts responsables de l'ONU afin de déterminer les conditions d'une enquête sur le terrain. Le 26 juillet, un accord est conclu. Des responsables des Nations Unies se rendront sur place pour enquêter sur trois sites où l'utilisation d'armes chimiques a été signalée. Le 17 août 2013, cette délégation d'ONU est sur place. Trois jours plus tard, en pleine nuit, à quelques kilomètres d'eux, dans la Ruta, le monstre invisible réapparaît. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 août, alors que des enquêteurs de l'ONU sont à Damas, vers 2h du matin, des missiles et des obus de mortier munis de charges neurotoxiques s'abattent sur la banlieue de la capitale, dans les quartiers de la Ruta orientale et occidentale. Horreur. Dans la guerre conventionnelle, on peut se cacher et trouver un refuge pour éviter un obus, une balle. Ce soir-là, pour les civils et combattants, la fuite est impossible. Alors, sans bruit, la mort imprègne les vêtements, puis s'infiltre dans les corps. Les yeux brûlent, tout comme la poitrine, l'air s'alourdit. Un survivant se souvient de cette nuit de cauchemar, dans le documentaire « Le souffle de la guerre chimique » de Fabienne Lidima.
Le jour de l'attaque, les missiles qui nous lançaient ne faisaient pas beaucoup de bruit, et ils explosaient dans le ciel. Quand on a vu ça, on est sorti pour voir ce qui se passait. On se demandait ce que c'était. On croyait que c'était des faux missiles donnés par la Russie. On s'est même dit que c'était des armes périmées. Et même, on en riait. Devant moi, trois personnes ont été tout de suite touchées. Elles se traînaient par terre en hurlant. On voyait bien qu'elles ne pouvaient plus respirer. On croyait qu'elles exagéraient. On ne s'attendait pas à ce que les armes chimiques aient un tel effet. Après avoir sorti les six cadavres, j'ai cherché mon frère et mes deux cousins, mais je ne les ai pas trouvés. Alors j'ai enlevé mon masque de chiffon et j'ai essayé de respirer, mais il n'y avait plus d'air. Ensuite, mes mains se sont contractées nerveusement. J'ai essayé de résister, mais j'avais l'impression que mes doigts allaient s'arracher. Mes pieds aussi se contractaient. Puis j'ai senti qu'on me transportait. Un véhicule m'a emmené et j'ai perdu connaissance.
Quelques heures après l'attaque, caméra au point, des rebelles filment dans les hôpitaux de fortune les victimes qui agonisent. Sur ces vidéos, on voit des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants sans blessure apparente, mais le corps meurtri par un mal qui ronge de l'intérieur. Torse nu, allongé sur des lits ou sur des sols, des infirmiers tentent de maintenir en vie les victimes grâce à des masques à oxygène. Les autres, les yeux grands ouverts, semblent absents, paralysés. Deux jours après l'attaque, les quartiers sont une nouvelle fois bombardés, non pas pour tuer, mais pour effacer l'épreuve. Des salles de rédaction au ministère, les images font le tour du monde. Lors d'une conférence de presse, Georges Sabra, dirigeant de l'opposition syrienne, estime le nombre des victimes à 1400. Si le chiffre est confirmé, il s'agit du massacre le plus important depuis celui de Halabja en Irak en mars 1988, où environ 5000 Kurdes ont été assassinés lors d'attaques chimiques. Au Quai d'Orsay, dans le bureau du nouveau directeur de cabinet, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Éric Chevalier, fait défiler les photos et vidéos sur sa tablette. Après le choc, le travail des diplomates consiste à rassembler les preuves, mesurer l'ampleur de l'attaque et cibler l'origine de ces frappes. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute. Bachar al-Assad a franchi la ligne rouge, comme le sous-entend Jean-Pierre Filiu, chercheur, historien, spécialiste du monde arabe, sur l'antenne de France Inter.
Jean-Pierre Filiu, est-ce que nous avons vécu un tournant hier dans le conflit syrien ?
Il faut comprendre que j'étais à Alep le mois dernier et que toute la population dans les zones contrôlées par les forces révolutionnaires s'attendait à une attaque massive par les armes chimiques de la part du régime et donc avait préparé des installations de fortune, comme le docteur El Moufti en a témoigné avec une sobriété tout à fait admirable. Il n'y a aucun doute pour la population syrienne que Bachar el-Assad ne reculera devant rien pour ne rien concéder et qu'il est prêt effectivement à lâcher des armes chimiques sur cette population. Mais je dirais que la question n'est même plus là. De toute façon, nous savons qu'il y a des centaines de morts, sans doute plus de 1000. Qu'ils aient été perpétrés par des armes chimiques ou pas ne change rien au fait que nous sommes face à un crime contre l'humanité et que personne ne fait rien.
Au même moment, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Laurent Fabius prend acte et demande une réaction de force. Toute la journée, dans les coulisses du pouvoir, entre le Quai d'Orsay et la cellule diplomatique de l'Élysée, on met en place la stratégie à venir. Car un an, jour pour jour, après le discours de Barack Obama, la ligne rouge a été franchie. Au lendemain de l'attaque, la question n'est donc plus de savoir si la communauté va réagir, mais quand et comment.
بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير لو حتى قلبي تاه لو حتى يصرخ لو حتى قلبي تاه لو حتى يصرخ طول ما بينا حياة طول ما
Dimanche 26 août 2013, 5 jours après l'attaque de la Ghouta, les inspecteurs de l'ONU obtiennent l'autorisation par le régime de se rendre sur le site de l'attaque chimique présumée pour l'heure. Le même jour, l'ONG française Médecins Sans Frontières annonce la mort dans les hôpitaux de 355 patients présentant des symptômes neurotoxiques sur les 36 000 personnes traitées après l'attaque de la Ghouta. Le lendemain, le 27 août, devant la conférence des ambassadeurs, le président français François Hollande annonce qu'il faut punir le régime.
Aujourd'hui, notre responsabilité est d'une autre nature encore. C'est de rechercher la riposte la plus appropriée aux exactions du régime syrien. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Demain, je réunirai un conseil de défense et le Parlement sera informé de la situation dans les meilleurs délais. Par ailleurs, j'ai décidé d'accroître notre soutien militaire à la coalition nationale syrienne dans le respect de nos engagements européens.
Après le choc des images et les condamnations, il faut faire accepter par l'opinion le choix d'une réponse militaire face aux crimes du régime syrien. En France, en tant que chef des armées, le président décide seul en la matière. Il n'a aucune obligation d'informer les élus avant le troisième jour qui suit le déclenchement des opérations. La seule obligation de notre monarque républicain est d'obtenir, dans les quatre mois, un vote pour le maintien ou non de l'opération en cours. En Angleterre, le Premier ministre n'a pas obligation non plus de soumettre son projet aux députés, mais il est de tradition qu'il le fasse. C'est un régime parlementaire. C'est pourquoi, le 27 août, David Cameron, le Premier ministre anglais, convoque en urgence la Chambre des communes pour un vote sur la participation de son pays à une intervention militaire. Mais 10 ans après la guerre en Irak, l'opinion britannique est devenue méfiante. À la Routa, en attendant que le Parlement anglais vote, les voitures blanches de l'ONU arrivent dans la banlieue de Damas où les attaques ont eu lieu. Les inspecteurs sont munis de masques à gaz, affublés de petites caméras fixées sur la tête et le corps recouvert de toutes parts. Ils collectent les preuves matérielles et s'entretiennent avec des témoins survivants. Ce même jour, à des milliers de kilomètres de là, les parlementaires anglais disent non aux frappes contre le régime de Bachar al-Assad avec une courte majorité de 13 voix. Au lendemain du refus anglais, lors d'une conférence de presse, John Kerry réaffirme toute la détermination des États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine présente un rapport de 4 pages des services de renseignement qu'il rend public. Il affirme que l'attaque de la Routa a été sciemment préparée. Il parle d'un nombre de victimes d'au moins 1400 Syriens, dont plus de 400 enfants. Pour lui, l'attaque de la Routa est un crime contre l'humanité. Et il conclut son réquisitoire par ces mots: nous savons qu'après une décennie de conflits, le peuple américain est fatigué de la guerre. Croyez-moi, je le suis aussi. Mais la fatigue ne nous absout pas de notre responsabilité et l'histoire nous jugera extrêmement sévèrement si nous détournons le regard sur l'usage injustifié d'armes de destruction massive d'un dictateur. Devant les caméras, tout laisse à penser que l'Amérique est prête à intervenir d'une manière ou d'une autre en Syrie. Pourtant, en coulisses, dans les conversations entre ambassadeurs et diplomates, aucune réponse définitive n'est apportée. Barack Obama doute. Le 30 août, le président américain annonce qu'il choisit de consulter lui aussi le Congrès et donc de reporter les frappes.
Après une délibération sérieuse, j'ai décidé que les États-Unis devaient mener une action militaire contre des cibles du régime syrien. Nous n'enverrons pas de soldats sur le terrain. Notre action sera limitée dans le temps. Et elle sera ciblée. J'ai pris une deuxième décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force aux représentants du peuple américain, les membres du Congrès.
Malgré cette volte-face du président américain, on pense qu'il ne peut s'agir que d'un report. Les projections du vote au Congrès sont légèrement favorables au président grâce au soutien notamment de personnalités républicaines dont John McCain. À Paris, le ministre de la Défense laisse le dispositif en alerte. Pourtant, l'OTAN n'est plus aux armes, mais à la diplomatie. À Saint-Pétersbourg, lors du sommet du G20, les 5 et 6 septembre, une autre route se dessine. Vladimir Poutine, principal allié du régime de Bachar al-Assad, récuse les accusations contre le régime et réclame des preuves. Lors de ce sommet, le président russe rencontre son homologue américain et lui propose un deal pour éviter les frappes. Le 9 septembre, la solution russe est présentée. Moscou propose le placement de l'arsenal chimique syrien sous surveillance internationale en vue de sa destruction. Le même jour, Bachar al-Assad intervient sur la chaîne américaine CBS lors d'une interview. Le dictateur syrien réaffirme que les accusations sur l'utilisation d'armes chimiques sont fausses et qu'aucune preuve n'existe, comme c'était le cas en 2003 en Irak.
Cela me rappelle l'énorme mensonge de Colin Powell devant le monde entier à propos des armes de destruction massive en Irak. Il avait dit « voici nos preuves ». Il a donné de fausses preuves. Et aujourd'hui, Kerry n'a présenté aucune preuve. Il a dit qu'il en avait, mais il n'a rien montré.
Le 12 septembre 2013, John Kerry et le représentant de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se retrouvent à Genève. Deux jours plus tard, ils annoncent un accord. Bachar al-Assad a une semaine pour présenter la liste de ses stocks chimiques. Alors que le dictateur syrien accepte l'accord et sacrifie son arsenal pour sauver sa tête, les enquêteurs de l'ONU, eux, poursuivent leurs travaux. Le 16 septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présente au Conseil de sécurité le premier rapport des inspecteurs de l'ONU sur l'attaque du 21 août dans la banlieue de Damas. Pour lui, il s'agit bien d'un crime de guerre. Le rapport établit des preuves flagrantes d'une attaque chimique sur une échelle relativement grande. Certes, mais qui est responsable de ce crime ? On ne sait pas, la mission onusienne n'avait pas pour mandat d'attribuer la responsabilité de l'attaque à l'une des parties en conflit. Pourtant, le rapport donne de nombreux indices sur l'identité de ceux qui ont utilisé des roquettes sol-sol. Or, seule l'armée syrienne en détient. Ce rapport n'est que la confirmation des informations déjà à la disposition des diplomaties. L'annonce du secrétaire général de l'ONU ne change rien. Le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité adopte à l'unanimité une résolution encadrant la destruction de l'arsenal syrien du régime de Bachar al-Assad. La Syrie doit donc se débarrasser de l'intégralité de son stock chimique d'ici mi-2014. À la frontière de la Syrie, les victimes de l'attaque du 21 août 2013 pansent leurs plaies et épousent le destin des réfugiés, comme ces deux hommes qui se souviennent de cette nuit-là devant la caméra de Fabien Lips-Dumas dans son documentaire « Le souffle de la guerre chimique ».
Tout le monde est mort, même les jeunes enfants. Je les ai vus par terre. De la mousse leur sortait de la bouche. Si j'avais pu les sauver, je l'aurais fait. Mais ils étaient morts. Ils ne respiraient plus, c'était déjà des cadavres. J'ai essayé de les retourner. Ils ne bougeaient plus. Il y avait aussi des jeunes, morts aussi. On les a enterrés dans une fosse.
Ça s'est passé il y a un an et demi et... Je me rappelle mes deux cousins qui sont morts. Le monde entier nous regardait mourir sous ces attaques à l'arme chimique.
Malgré la résolution de l'ONU, le 21 avril 2014, la coalition nationale syrienne alerte une nouvelle fois le monde sur de nouvelles attaques chimiques. Elle déclare que les forces gouvernementales n'ont pas cessé d'employer ces armes. Selon eux, ils en auraient fait usage à 9 reprises depuis le début de l'année 2014, dont 6 fois au cours du mois d'avril. Par la voie des airs, à l'aide d'hélicoptères, des barils d'explosifs remplis de chlore à l'état gazeux auraient été largués, notamment à Asrata, Tamala et Astrahan. Un mois plus tard, le 23 mai 2014, une vidéo diffusée sur la toile montre une rue où l'on voit en effet un nuage jaunâtre et des gens courir et tousser. Un journaliste de l'agence Reuters est présent une heure plus tard dans ce village situé dans la province centrale de Hama. Il confirme la fumée jaunâtre et l'odeur de chlore. 5 mois plus tard, le 10 septembre 2014, les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques confirment qu'un agent toxique a été utilisé de manière systématique et répétée dans les villes du nord de la Syrie au début de l'année. En avril 2015, c'est l'ONG Human Rights Watch qui accuse le régime syrien d'avoir utilisé à 6 reprises des barils remplis de chlore dans le nord-ouest du pays, cette fois dans la province d'Idlib. L'ombre des attaques chimiques plane toujours sur les Syriens. En janvier 2014, nous avons découvert d'autres images d'un mal bien plus meurtrier quotidien du régime de Bachar al-Assad, la répression et les tortures jusqu'à la mort, rapportées par un ancien photographe de la police militaire syrienne qui a fait défection en 2013. Cet homme, qui répond au nom de Code César, avait pour mission, avec d'autres, de photographier les corps des cadavres, des opposants ou supposés opposants assassinés dans les prisons du régime. Chaque jour, il a fait des copies de ses archives au péril de sa vie, bien sûr. En décembre dernier, l'une de ces 45 000 photos a été publiée dans le journal Le Monde. On y voit 3 rangées de corps squelettiques, masculins en sous-vêtements ou nus, tous morts et disposés sur le sol. Derrière le bruit des bombes et des combats, derrière les images des batailles urbaines entre opposants et fidèles du régime, derrière les choix diplomatiques des puissances étrangères en faveur de l'un ou l'autre, quand la machine de mort tourne sans cesse au cœur de la Syrie. Comme pour le massacre chimique de la Ghouta et ceux qui l'ont précédé et suivi, pourrons-nous dire que nous ne savions rien de cette mort qui s'abat dans les prisons du régime syrien, loin des champs de bataille. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for a rubber plant to get rid of itself. Who wears a round? Who wears a round? Who wears a round?
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le drame syrien avec notre invité Alaa Khodmani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, notre journal partenaire. Une fois par mois, et vous suivez la situation en Syrie, d'où vous êtes originaire.
Absolument.
Voilà. Vous suivez donc cette situation dramatique en Syrie depuis le début de la guerre en 2013. Nous vous avions 11, mais vous suivez ces événements dont nous parlons, et notamment de gaz, l'attaque au gaz depuis 2013, depuis Alep. Mais vous avez raison de le dire, c'est la guerre depuis 2011, hein, depuis ce printemps arabe qui n'a pas abouti et qui a tourné en drame immédiatement. Nous vous avions invité la première fois pour parler du conflit syrien lors de la chute d'Alep, bombardée et reprise par l'armée de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, nous sommes en février 2018, même en mars demain, le régime syrien bombarde la Ghouta orientale, dont nous avons parlé dès le début de ce récit d'ailleurs, c'est à quelques kilomètres de Damas. Ce territoire rebelle est intensément pilonné par les aviations syriennes et russes. L'ONU a déclaré un cessez-le-feu accepté par la Russie, mais de quelques heures par jour, donc un cessez-le-feu perlé. Et en attendant, 400 000 personnes vivent dans ce quartier de la Ghouta assiégé. Depuis 5 ans, depuis la ligne rouge déclarée par Obama et Hollande comme frontière à ne pas franchir, et on l'a entendu également dans le récit, depuis la chute d'Alep, depuis le terrorisme imposé par Daesh. Également, on est aujourd'hui donc devant le massacre de la Ghouta. Expliquez-nous, si vous pouvez, parce que c'est une question que tout le monde se pose, comment, au bout de 5 ans d'horreur, personne n'arrive-t-il à ne rien faire? Pardon pour la phrase, mais oui. Voilà, la folie d'Assad continue à tuer sans que personne ne puisse intervenir efficacement. Est-ce que ça va durer longtemps comme ça?
Si, il y a eu des interventions très très efficaces.
Lesquelles?
Ce sont les alliés d'Assad.
Ah oui, d'accord.
Et
sans
ça,
était dans l'autre sens,
justement,
évidemment.
Bah oui. Mais c'est la vraie réponse, parce que sans l'intervention massive, sans l'investissement et le soutien massif à Bachar al-Assad de la part de l'Iran dans un longtemps
et les
jusqu'à
Russes.
Maintenant, et surtout de la Russie. Notamment, enfin, il y a eu un soutien dès le départ politique, diplomatique, etc. Mais militaire direct à partir de septembre 2015, quand Bachar al-Assad était vraiment à bout de souffle, quand son territoire était, il ne contrôlait plus que 20% de son territoire. Et là, l'entrée en scène de l'armée russe, mais directement, là, avec les avions, les soldats, etc., ça a complètement retourné la situation, et ça s'est poursuivi. C'est-à-dire, ça a été une vraie campagne de reconquête menée méthodiquement grâce à l'armée russe, avec le soutien massif de milices mobilisées par l'Iran.
Genre le Hezbollah, par exemple.
Iranienne et mobilisée par l'Iran, dont le Hezbollah libanais, mais aussi toutes sortes de milices venues d'Irak, d'ailleurs, etc. Et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas... L'absence, c'est vrai qu'il y a l'absence des autres, ceux qui voulaient, souhaitaient, disons, la fin du régime de Bachar al-Assad ne sont pas investis de la même façon, on va dire.
Bien sûr.
Loin de là. Et ce qui fait que, c'est un camp qui a gagné, c'est celui du tueur.
Mais alors l'autre question, c'est pourquoi cette implication de la Russie, de l'Iran, ça paraît moins compliqué, parce que voilà, on est dans cette région du Moyen-Orient, pas du Proche-Orient, plus large, hein, du Moyen-Orient, et on sait que l'Iran est l'un des pays qui voudrait être un pôle d'équilibre, hein, de cette région-là. Israël aussi, d'ailleurs, peut-être on en reparlera après. Mais les Russes, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'est quoi la stratégie de Poutine? Est-ce que c'est simplement de dire, voilà, écoutez, la Russie, ça compte encore, c'est un partenaire, c'est pas mettre un adversaire militaire, on existe et on est là et on vous le prouve, c'est ça?
Ah, mais je crois que l'affaire syrienne a été un moment extraordinaire, et ça continue de l'être d'ailleurs, pour Poutine, pour la Russie, pour un... Retour en Syrie, non, hein, parce que les Russes n'ont jamais été absents. L'armée syrienne est fournie, est entraînée, équipée, etc., que par les Soviétiques depuis les années 50. Donc c'est pas la présence en Syrie qui est importante. C'est surtout d'être le pivot de toute l'action internationale, de pouvoir ébloquer la volonté des uns et agir dans le sens de ses propres intérêts. C'est un, oui, c'est une présence russe, c'est là que... Tu vois, on n'a jamais autant parlé de la Russie que depuis la crise syrienne. La Russie n'a jamais autant existé, ne s'est jamais autant imposée régionalement. Et ça fait, en quelque sorte, un rayonnement, y compris régional. Maintenant la Russie et l'Égypte courent après les Russes, etc. Parce que, aussi, c'est accompagné de... Ah non, votre histoire de démocratie, etc. Non, c'est pas ça qui compte, on veut des leaders affirmés, etc. Ce qui fait que bon, ça va ensemble.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de conscience pour le pouvoir russe, quoi, en gros.
J'ai pas l'impression.
Oui. L'Iran, alors, maintenant, qu'est-ce que l'Iran a gagné à s'investir autant dans ce conflit-là?
L'Iran, c'est une grande stratégie régionale.
Oui, ce que je disais tout à l'heure.
Voilà, c'est une très grande stratégie régionale. L'Iran qui considère... qu'ils sont, bon, c'est un peu le même syndrome qu'Israël, longtemps, ils ont besoin d'attaquer pour se protéger, dans ce sens que, ah oui, on est un pays à majorité chiite dans un océan, entouré d'un océan sunnite, et donc il y a une volonté de projection, mais c'est un projet de la République islamique iranienne depuis son avènement, depuis le début des années 80, ça a commencé avec le Liban, où là, ils avaient un point d'appui, parce qu'il y avait une grosse communauté chiite et qu'ils ont pu le faire.
Au Liban sud,
on a vu l'Irak, on a vu l'Irak au lendemain, alors que, paradoxalement, la campagne menée par Bush, par la guerre aberrante de 2003, s'est tournée à l'avantage de l'Iran, quelque part, parce que ça a remis en... rééquilibré ou remis en place au pouvoir en Irak une minorité, la majorité chiite pardon, de la population, et du coup a été acquise à l'Iran.
D'accord, donc présence régionale.
Donc voilà, c'est un axe c'est un axe Téhéran-Beyrouth.
D'accord.
Que l'Iran veut avoir pour vraiment s'imposer régionalement.
Donc on est bien d'accord, que ce soit du côté de Moscou ou de Téhéran, on montre ses muscles et on dit on est là et on compte.
Et on arrive.
Et on arrive. Alors, maintenant, on va continuer à faire œuvre de pédagogie dans cette émission qui est aussi une émission d'histoire. L'opposition à Bachar al-Assad, elle est multiforme, elle est protéiforme, hein. Il y a eu Daesh, bon, là, moins, mais il y a eu Daesh. Il y a les opposants pour la démocratie, ceux du printemps arabe. Il y en a d'autres qui s'opposent à Bachar al-Assad. C'est quoi l'ensemble de la toile d'opposition à Bachar?
Toute la minorité qui n'est plus avec lui, on va dire. Il faut penser peut-être aux 5 millions de Syriens qui ont dû quitter le pays.
Oui.
Aux 5 ou 6 millions d'autres déplacés à l'intérieur du pays. Et tout ça, pour la 90% des cas, à cause des bombardements, à cause de la dévastation faite par l'armée de Bachar al-Assad contre leur ville, leur village, leur région, etc. D'opposition, c'est pratiquement une très grande majorité du peuple syrien. Maintenant, si on veut parler d'opposition politique, militaire, etc., bon, il y a plusieurs... C'est vrai qu'elle a toujours eu beaucoup de mal à s'imposer, à se montrer, à se constituer, et je crois que c'est une très grande catastrophe pour les Syriens, c'est que l'opposition, n'a pas su incarner, ou être incarnée. Et elle a été surtout très influencée par ses différents soutiens étrangers.
Oui. Ce qui nous rappelle quand même, alors attention aux parallèles, aux comparaisons, c'est toujours hasardeux, mais on se souvient du conflit au Liban, où il y avait tout un tas de puissances étrangères, y compris occidentales, qui venaient se mêler par milices interposées. Il y a quelque chose qui ressemble un peu, mais sans aller trop loin quand même.
Hein. Oui, je crois que bon, c'est pas complètement...
Hors de propos,
c'est juste une question de proportion.
Oui.
Au Liban, c'est vrai que les ingrédients de guerre civile étaient beaucoup plus présents à cause des communautés, à cause d'une tradition de confrontation civile communautaire au Liban.
De mosaïque.
Et puis, il n'y a jamais eu autant d'investissements militaires. Ça a duré 15 ans. Il y a eu, je crois, 100 000 morts, ce qui est énorme, bien sûr. Mais il n'y avait pas eu d'aviation, sauf quand l'aviation israélienne était intervenue. Mais on n'est pas du tout dans la même échelle.
Quelles sont les conséquences de la non-intervention de Barack Obama et de cette fameuse ligne rouge qu'il fallait surtout pas dépasser, qui a été allègrement dépassée, il ne s'est rien passé. Quelle responsabilité il porte?
Je crois que bon, on est presque 5 ans après. Maintenant, tout le monde se rend compte que ce tournant, sans parler de ce qui se passe aujourd'hui, qui est une des conséquences, hein, que ce drame humanitaire, etc., se poursuit, une violence aveugle, même les bombardements chimiques, il y en a eu à nouveau. Ce qui, je crois, s'est écroulé, c'est d'abord l'idée de l'impunité. C'est-à-dire que, et comme le disaient les Syriens, au lendemain, quand il y a eu cet accord russo-américain de 2013 qui a complètement bouleversé la donne, les Syriens disaient, ah bah, c'est comme si on disait à l'assassin, donne ton arme et tu es libre. C'est exactement ça. Et ce sentiment d'impunité établi. C'est-à-dire, tout le monde a dit, bon bah ok, allez, on va se contenter de ça. Et rester, ça a bénéficié au régime de Bachar al-Assad qui s'est dit, pfiou, open bar, pour parler, je peux faire ce que je veux. Et ça a décrédibilisé complètement les règles établies par la communauté internationale depuis, la communauté internationale, tous les grands pays et les grandes puissances depuis
bien sûr.
Des dizaines d'années.
Emmanuel Macron vient de dire la même chose. Ligne rouge, faut pas la dépasser, on interviendra, on punira. Quel poids ont ces paroles-là?
Mais c'est ça. Ça a décrédibilisé la parole, plus que la parole, la loi.
Oui.
C'est pas seulement la déclaration de Hollande, de Macron, de Obama, etc. C'est pas parce qu'ils ont dit ligne rouge qu'il y aura ligne rouge.
Ouais.
C'est, il y a derrière la ligne rouge, il y a des lois, il y a des conventions, il y a eu des... Bon. Alors, c'est facile maintenant de dire l'ONU ne sert à rien, tout ça, mais bon, à ce moment-là, plus rien, il n'y a plus aucune règle.
Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de l'ONU, l'impuissance des puissants, ça vous dit quelque chose,
hein? Oui, bah oui.
Un joli titre, ça. Bon, en remontant le temps, comme nous venons de le faire, on constate deux choses. Alors la première, donc, c'est l'impuissance des États-Unis, mais aussi de l'Europe, et puis vous l'avez dit, la décrédibilisation et de la parole et de la loi et de l'action, et puis de l'ONU, évidemment. Le 30 novembre 2016, le président du conseil communal d'Alep Est, qui s'appelle Brita Hadji Hassan, est en France. Il est invité sur le plateau de France Info et il réagit devant ce qu'il faut appeler donc l'impuissance de l'ONU.
Il n'y a aucune action véritable de la part des Nations Unies. Les Nations Unies, et dans le cadre de 3 initiatives pour faire rentrer des aides humanitaires, a demandé l'accord, l'autorisation du régime pour faire rentrer ces aides. Alors, où est la neutralité là-dedans? Où est l'aspect humanitaire dans cette affaire? Et donc, se taire lorsqu'on se tait devant les assassinés dont souffrent les civils. Et lorsqu'on se tait, ça veut dire que l'on est complice. Tous ceux qui se taisent devant l'assassinat des civils et complices de cette tuerie.
Quelle est la situation humanitaire aujourd'hui en Syrie? Pas meilleure qu'avant, évidemment, probablement pire.
Bien sûr. Enfin, là, par exemple, dans l'enclave de la Ghouta assiégée, ce qui est presque 400 000 personnes selon les estimations de l'ONU. Hein. Bon, ils sont depuis 5 ans assiégés, hein. C'est pas. Mais avant, c'est une zone agricole où les gens arrivent à presque avoir une autonomie du point de vue alimentaire. Mais en plus, il y avait, grâce à la corruption, grâce à des tunnels creusés sous terre, etc., il y a plein de choses passées. Maintenant, non, c'est un vrai siège. Et là, j'avais des témoignages dont j'ai publié certains, j'en ai régulièrement, hein, c'est parce que il y a absence de tout sauf d'internet dans cette enclave assiégée et bombardée.
C'est-à-dire que les gens reçoivent des bombes et communiquent entre eux avec leur portable.
Bombe par bombe, je peux les avoir. C'est extraordinaire. Là, ils se soucient davantage de charger leur téléphone portable que de manger. Et donc j'ai des infos régulièrement. Bon, la semaine d'horreur de la semaine dernière. Pleuvait des averses d'obus, de bombes, ce qu'ils appellent les barils, qui sont les plus horribles. Ce sont des containers de poubelles d'explosifs, quoi. C'est vraiment toutes les matières les plus horribles, on les met dedans et ça fait des dégâts absolument incroyables. C'est une région où les gens se sont mis à vivre sous terre.
Ouais,
ils sont enterrés.
On les comprend.
Tout est en sous-sol.
Bien sûr. Daesh est considérablement affaibli, c'est moins qu'on puisse dire, en tout cas en Syrie. Ça change. Est-ce que ça change vraiment la donne?
Bah, c'est-à-dire que on est revenu au vrai conflit.
C'est ça. Mais oui.
On est revenu. On a cru que l'épisode Daesh, qui c'est vrai a fait diversion.
Oui, c'est vrai.
A fait une grande diversion, a mobilisé le monde entier, a horrifié. Bon, c'est certain. Tout le monde s'est focalisé sur Daesh en disant voilà, c'est ça le problème.
En fait, non.
Comme dit le vrai ennemi, notre seul ennemi, notre seul combat, comme dit Emmanuel Macron. Mais finalement, voilà, Daesh est pratiquement éliminé aujourd'hui en Syrie comme en Irak. Il reste quelques poches, ils sont sous terre, ils vont réapparaître sous une forme ou une autre. Mais on se rend compte que le vrai problème, il existe encore et il est encore durable et il peut en entraîner beaucoup d'autres.
Et on rappelle que ce vrai problème vient d'une volonté légitime, populaire, de faire un printemps arabe dans ce pays comme dans d'autres, comme dans les autres. Et là, le début du conflit, les vrais ennemis de Bachar, ce sont ceux qui veulent la démocratie.
C'est ceux qui subissent la dictature.
Et qui subissent la dictature, voilà. Ou plutôt qui subissent la dictature. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. On va parler de l'avenir de la Syrie. Je vais vous faire réécouter la chronique de Bernard Guetta du 21 février sur France Inter, bien sûr, à 8h15, qui pose la question de l'avenir en Syrie à partir d'un état des lieux. Vous allez entendre, très précis.
Le pire est devant nous, a déclaré Jean-Yves Le Drian devant la représentation nationale. Tous les éléments sont réunis pour une aggravation de la situation, a-t-il ajouté, en énumérant le blocage du processus de recherche d'un compromis politique, la poursuite de la guerre civile à la Ghouta et dans la région d'Idlib, l'incursion des Turcs dans la région d'Afrine et l'incursion iranienne dans le ciel israélien. Victoire militaire de ce régime ou pas, ce conflit ne connaîtra pas de cesse avant longtemps, puisque personne ne viendra reconstruire ce pays tant qu'il n'y aura pas de compromis politique, que les Turcs, en deuxième lieu, ne veulent pas d'un Kurdistan syrien autonome à leurs frontières et sont donc entrés en Syrie dans la région d'Afrine pour en empêcher la formation, que les Américains et leurs alliés saoudiens et israéliens ne se résignent pas en troisième lieu à une complète victoire des Iraniens en Syrie et soutiennent en conséquence l'autonomisme kurde, qu'une improbable alliance en quatrième lieu s'est nouée contre l'incursion turque entre Bachar el-Assad et les Kurdes et que la nervosité enfin monte à Jérusalem face à la présence iranienne aux frontières libanaises et syriennes. D'Israël.
Cet écheveau de complications démontré par Bernard Guetta est impressionnant et juste. Et on se dit, mais comment on en sort, quoi ? Parce qu'avant, c'était l'Orient compliqué. Là, c'est l'Orient presque, si je puis dire, n'importe quoi. Ça part dans tous les
sens. Je crois que, c'est justement... il faut régler les problèmes les uns après les autres. C'est-à-dire, c'est une guerre à tiroirs.
C'est je te tiens, tu me tiens aussi, quelque part.
Hein. C'est oui. Bon, avec des retournements d'alliances, des opportunismes et des cynismes de toutes parts, de la part de tous les acteurs locaux ou régionaux ou internationaux. Je crois qu'à un moment donné, il faut un petit peu voir les priorités. C'est le fait que la guerre civile est la base. C'est à partir de là, quand le régime et le gouvernement donc de la Syrie n'a plus eu comme priorité que de battre sa propre population, que tous les autres problèmes ont éclaté, qu'il ne contrôlait plus ses frontières, que tous ses voisins pouvaient faire ce qu'ils voulaient chez lui, que...
Ça a ouvert la boîte de Pandore.
Et je crois que malheureusement... ça va durer très très longtemps, parce qu'il y a maintenant qu'il y a plusieurs conflits à régler. J'étais en Irak il n'y a pas longtemps, et j'ai vu un pays qui, après 3-4 guerres, plus de 30 ans, presque 40 ans, a très beaucoup de mal à se recomposer.
Ce qu'on peut comprendre, évidemment, un pays dévasté par plusieurs guerres. D'ailleurs, Daesh avait trouvé son terreau.
C'est la dévastation humaine. Le pire, c'est la dévastation humaine. Parce que c'est pas la pierre. Ça se reconstruit un peu.
Bien sûr.
Mais les âmes, hommes, les cervelles, âmes et les hommes,
bien sûr.
Les cerveaux sont très beaucoup plus difficiles à reconstruire.
Toute dernière chose, l'implication d'Israël. Qu'est-ce que ça peut sous-tendre?
Je crois que l'implication d'Israël est juste... c'est une implication de... Je dirais pas opportuniste, mais complètement égoïste. Je crois qu'Israël, les Syriens peuvent s'entretuer encore 20 ans, ça ne les gênera jamais, il y en aura toujours ça de moins. Et puis, non, et leur ligne rouge, comme on peut dire, c'est d'avoir l'Iran à leur frontière. L'Iran et la Hezbollah trop proches de la frontière. C'est ça la ligne rouge israélienne. Et je pense qu'ils n'iront pas plus loin s'ils ne sont pas approchés. Mais en même temps, l'Iran n'évitera pas de provocation non plus.
Merci infiniment à la Codemanie pour ce tour d'horizon très complet. D'ailleurs, c'est vrai que Libé sur la Syrie a une ligne éditoriale importante, fournie. Ça fait vraiment partie des priorités de ce journal.
Merci.
Je trouve, en tout cas. Merci, au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le drame syrien, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Florent Beauvallet qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous irons en Italie au cœur des années de plomb.